Je vais revenir, je vais me présenter rapidement parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la guerre des paysans et de cette période. J'ai travaillé sur la mémoire collective et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, et spécifiquement sur la mémoire collective des incorporés de force, alsaciens et mosellans. Donc, dans le cadre de ma thèse qui avait pour thème la mémoire collective des malgré nous et des malgré elles, j'ai eu l'occasion de réfléchir à la manière dont on pouvait définir ce qu'est la mémoire collective et comment on pouvait l'étudier. Et c'est ça que j'aimerais aujourd'hui vous présenter, c'est-à-dire vous présenter trois manières de définir la mémoire collective et trois manières de l'étudier, la manière des historiens, la manière des sociologues et la manière dont on l'étudie en sciences politiques. Pour être clair, mais je vais passer certains faits que je voulais vous raconter puisque mes camarades l'ont fait avant moi. Mais pour être clair et pour donner déjà un premier aperçu de ce que peut être la mémoire collective, on pourrait la définir de la manière suivante, à savoir que c'est une forme présente du passé. C'est la présence du passé dans une société actuelle. Et en ce sens, la mémoire collective a donc un point commun avec l'histoire qui est une discipline qui, elle aussi, est une forme de présence du passé. Les historiens restituent un événement passé pour, dans notre société présente. En revanche, l'histoire et la mémoire ont des différences que vous avez évoquées également, puisque l'histoire est une discipline qui répond à des méthodes professionnelles, à des savoir-faire. Elle retrace, on pourrait dire de manière un petit peu générale, le passé de manière froide, c'est-à-dire en mettant à distance les émotions que ce passé peut susciter et les conflits que ce passé peut susciter. Et en ce sens, on envisage l'histoire comme davantage objective que la mémoire. La mémoire, à l'inverse de l'histoire, répond a priori à, je dis bien a priori, on peut en discuter, à aucun savoir-faire particulier. Et contrairement à l'histoire qui est plutôt froide, la mémoire est vivante. On retrace un passé, un événement passé, avec émotion. Et parfois, ces émotions font naître des conflits d'interprétation entre nous, entre groupes. Dès lors, la mémoire collective paraît plus subjective que l'histoire, et d'ailleurs pendant un long moment, ce qui est en partie vrai, on l'a soupçonné d'être faussée et truquée. Pendant longtemps, les chercheurs en sciences sociales ne se sont pas intéressés à l'objet mémoire collective à cause de son aspect subjectif et des disputes que la mémoire collective pouvait engendrer. En fait, pour le dire de manière un peu vulgaire, ils ne voulaient pas se retrouver au milieu de groupes sociaux qui se disputent et qui sont en conflit à propos d'une interprétation du passé. Ils ne voulaient pas devenir des arbitres, donc ils ont laissé ce sujet d'étude de côté. Mais les choses changent un petit peu à partir du XXe siècle, notamment quand des historiens, des sociologues et des politologues découvrent, ou plutôt redécouvrent, des travaux de philosophes tels que Proust et Bergson. Et parmi ces chercheurs, qui vont prendre au sérieux l'objet mémoire collective, on retrouve entre autres Marc Bloch, Maurice Halbwachs et Paul Ricoeur. Chacun envisage différemment la mémoire collective en fonction de sa discipline, et c'est ce sur quoi je vais m'arrêter maintenant. Je vais commencer mon petit exposé par la manière dont les historiens définissent la mémoire collective. Et je vais m'appuyer principalement sur les travaux d'un historien français qui s'appelle Pierre Nora, qui est l'un des premiers historiens, après Marc Bloch, à s'intéresser à la mémoire collective. Il va écrire avec ses collègues, avec plusieurs de ses collègues, un ouvrage énorme qui s'intitule « Les lieux de mémoire ». Alors, je ne reviens pas dans le contexte dans lequel il écrit, le contexte en termes d'historiographie, puisque mon collègue l'a évoqué tout à l'heure et qu'on pourra en discuter par la suite si ça vous intéresse. Pierre Nora va s'intéresser à ce qu'il appelle les lieux de mémoire. Alors les lieux de mémoire, il faut l'entendre au sens large parce qu'il peut s'agir de lieux géographiques, situés géographiquement en tout cas, comme des monuments aux morts, des monuments tout court, des musées. Ça peut être aussi des lieux matériels, des manuels scolaires, des témoignages, etc. Ou des lieux symboliques, comme c'est le cas des fêtes nationales, des drapeaux, des hymnes ou encore de la Déclaration des droits de l'homme. Pour lui, les lieux de mémoire, ce sont les traces, toutes les traces, correspondent à toutes les traces que le passé laisse dans le présent. À partir de ces traces qu'il étudie, Nora propose une définition de la mémoire collective. Alors je m'explique, je vais essayer d'être la plus claire possible. Pour lui, l'ensemble des traces que j'ai évoquées, l'ensemble des lieux de mémoire, montrent qu'il existe une mémoire collective, une mémoire qu'on partagerait tous dans le présent. Pour Nora, il faut mesurer les traces que le passé a laissées dans notre société présente. Plus il y a de traces d'un passé, plus cela signifie que la société présente a du mal à se défaire de son passé. En d'autres termes, son passé ne passe pas. Pour Nora, la mémoire collective est donc la manière dont le passé ressurgit comme un poids, et j'insiste sur le terme, dans le présent. Un poids qui prend la forme de traces, de lieux de mémoire. En ce sens, certains travaux historiques sur la mémoire collective se rapprochent d'une forme de psychanalyse, enfin utilise un vocabulaire de psychanalyse puisque la psychanalyse s'intéresse donc à l'individu, à l'échelle individuelle et aux expériences douloureuses, aux traumatismes qu'on vivrait individuellement et qui laissent des traces dans nos comportements présents. Et le but de la psychanalyse étant de soigner ce traumatisme passé pour qu'on vive mieux notre présent à l'échelle individuelle. Dans une certaine mesure, l'histoire, à propos de la mémoire collective, partage cette idée. La mémoire est un passé qui laisse des traces dans notre société présente. Donc c'est une émotion collective qu'on vécue dans le passé, qui se répercute dans notre société présente. Et d'ailleurs, il est assez fréquent de voir dans certains travaux d'historiens sur la mémoire collective que ces derniers utilisent un vocabulaire psychanalytique. Et là, je pense par exemple à un ouvrage d'un historien qui s'appelle Henri Rousseau et qui s'intitule « Le syndrome de Vichy ». Dans cet ouvrage, le but d'Henri Rousseau, c'est de chercher à étudier les traces que le régime de Vichy a laissées dans nos sociétés, et en particulier entre 1944 et 1990. Le but, et là je le cite, est de savoir si la France a digéré ou non le traumatisme de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Et il distingue quatre périodes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ces périodes, mais la première période, elle correspond selon lui à un oubli, c'est-à-dire on fait tout pour minimiser les traces du régime de Vichy. La deuxième période, c'est celle qu'il nomme du refoulement, donc là encore on retrouve un vocabulaire psychanalytique. Pour lui, cette période elle a lieu entre 1950 et 1960. Le but est de refouler les souvenirs de Vichy et donc il y a peu de traces de ce passé dans la société des années 50 aux années 60. Ensuite, la troisième phase est celle qu'il appelle le retour du refoulé et elle a lieu entre les années 60 et 80. À cette époque, nous dit-il, le passé de Vichy ressurgit. Et il ressurgit à travers des films, parmi lesquels Le chagrin et la pitié, par exemple, parmi des témoignages, notamment des témoignages des survivants de la Shoah, et des procès, comme celui de Klaus Barbie, ou des travaux d'historiens étrangers. La quatrième phase et ce qu'il appelle l'obsession. Et là, il explique que à partir des années 80, au milieu des années 80, le passé de Vichy est hyper médiatisé. ce qui lui fait dire et conclure que la France est effectivement malade de son passé puisqu'elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Pour Rousseau, plus il y a de traces d'un passé, plus cela signifie que la société présente est malade de son passé. Alors, cette perspective historique a été critiquée par un certain nombre de sociologues et de politologues, et la plus grande critique qui a été formulée à son encontre provient d'une politologue de la mémoire qui s'appelle Marie-Claire Lavabre. Globalement, la limite qu'elle voit à cette définition de la mémoire collective comme un poids est la suivante. Pour elle, cette perspective donc de la mémoire collective, elle revient à homogénéiser une population. On a tendance, dans cette perspective, à considérer que nous sommes tous traumatisés de la même manière par un passé. Si je reprends l'exemple du régime de Vichy, on serait tous traumatisés de la même manière par le régime de Vichy. Or, est-ce que finalement, on ne peut pas remettre cette idée en question ? Est-ce que, par exemple, les pieds noirs ont-ils été traumatisés par ce régime de la même manière que les habitants d'Alsace-Moselle, que les habitants de Marseille, par exemple? Est-ce que les jeunes générations sont-elles traumatisées par Vichy de la même manière que les personnes qui ont vécu sous ce régime? En d'autres termes, si je résume, le passé est-il un poids de manière similaire chez tout le monde? Et c'est là que je vais passer à la deuxième perspective de la mémoire collective, à savoir la perspective sociologique. Et pour la petite anecdote, cette perspective sociologique de la mémoire collective est née ici même, à Strasbourg, avec les travaux du sociologue Maurice Halvax. Il y a une différence majeure, je ne vais rien vous apprendre, hein, c'est pas un scoop, entre l'histoire et la sociologie. L'histoire, son objet d'étude, c'est le passé et les sociétés passées. La sociologie, son objet d'étude, c'est le présent. Et ça, ça a une conséquence très importante sur la manière dont les sociologues vont définir ce qu'est la mémoire collective. Les sociologues partent du présent et notamment des souvenirs individuels, des facteurs et des... ils partent, leur objet d'étude, c'est les souvenirs individuels, et ils partent des facteurs sociaux présents qui nous permettent de nous souvenir. Je vais m'expliquer avec plus de... avec des exemples pour que ce soit plus clair. En gros, ils cherchent à répondre à la question suivante: comment notre société présente nous permet-elle de nous souvenir du passé? Comment notre présent influence-t-il notre perception du passé? Donc le point de départ des sociologues, c'est le présent, là où le point de départ des historiens est le passé. Pour eux, pour les sociologues, le passé n'est donc pas un poids, mais un choix. Alors, petite subtilité sur le mot choix, parce que c'est quand même un choix contraint, c'est-à-dire contraint par des situations sociales, par notre situation sociale présente, par l'actualité sociale et politique de la société dans laquelle on se trouve, et aussi par nos caractéristiques sociales. On ne refait pas les sociologues. Et c'est en cela que la mémoire est collective. Sans tous les facteurs sociaux que je viens de vous citer, on ne pourrait pas se rappeler du passé. Et on peut prendre des exemples tout à fait basiques pour essayer de le comprendre. Par exemple, pour se remémorer le passé, on a besoin que quelque chose dans notre présent nous y fasse penser. Ce quelque chose, c'est généralement une tierce personne ou une situation sociale particulière. Je ne peux pas me souvenir, moi, à titre individuel, que je suis tombée hier en sortant du tramway, par exemple, si rien autour de moi ou si aucun d'entre vous ne m'y fait penser maintenant. C'est le premier exemple que je voulais vous donner pour montrer comment le présent est important pour se souvenir. Deuxième point, deuxième exemple, on se remémore toujours le passé en fonction de qui on est socialement dans le présent. Et là, il y a des travaux qui ont été faits en sociologie, et je vais en citer un. Une étude, celle réalisée par Alexandra Heuser sur la manière dont les lycéens et les lycéennes allemands se souviennent différemment de la Seconde Guerre mondiale en fonction du genre. Elle explique dans son ouvrage que les garçons se souviennent davantage des événements guerriers menés par la Wehrmacht, quand les filles se remémorent plutôt les victimes civiles et en particulier les victimes de la Shoah. Et ces différentes façons de se souvenir, nous dit-elle, ont des conséquences très concrètes sur leurs relations familiales, puisque les garçons vont aller interroger davantage les grands-pères quand les filles vont aller interroger davantage les grands-mères. Troisième exemple que je voulais dont je voulais vous faire part pour illustrer cette perspective sociologique de la mémoire collective, c'est que on raconte nos souvenirs en proposant une interprétation qui dépend de l'interaction dans laquelle on se trouve, en fait, du public auquel on s'adresse et des enjeux qu'on a à raconter nos souvenirs. C'est pas pareil, c'est un exemple un peu, voilà, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est pour que les choses soient bien claires. C'est pas pareil de raconter le souvenir d'une rencontre amoureuse à son enfant qu'à son père ou à sa meilleure amie ou à un juge dans le cadre d'un procès pour divorce. On ne va pas raconter l'événement de la même manière en fonction de la personne qui se trouve en face de nous et des enjeux qu'on a à le raconter. Et ces enjeux et ces personnes sont inscrits dans le présent. Donc le présent influence nos souvenirs. Alors, il y a quand même des perspectives à la perspective sociologique, puisque là où la perspective historique pouvait sembler homogénéisante, la perspective sociologique peut paraître individualisante. À l'inverse, on a tendance à analyser en sociologie la façon dont on se remémore un événement passé à partir d'une situation individuelle. Mais on peut se demander si ça exclut le fait qu'il y ait des traces du passé. Est-ce que ça exclut le fait que le passé soit en poids comme les historiens le conçoivent ? Je laisse cette question en suspens. Je peux vous évoquer le fait que parfois les sociologues se contredisent eux-mêmes sur cette perspective, puisqu'ils expliquent que non, il n'y a pas de traces du passé. Mais par exemple, Alvax, qui est le fondateur de la mémoire collective en sociologie, ouvre son livre intitulé « La mémoire collective » en donnant un exemple, celui d'un promeneur solitaire à Londres. Alors l'objectif de cet exemple, c'est de montrer comment on se souvient de choses à partir de nos goûts et de ce qu'on voit autour de nous. Donc ce promeneur, au départ, dans son exemple, donc il se balade à Londres, il voit le Big Ben, la Tour de Londres, etc. Et ce promeneur, au départ, est un fan de Dickens. Et du coup, quand il voit ces monuments, il se souvient des romans de Dickens. Il cite le même exemple, Alvax, avec quelqu'un d'autre, il me semble un médecin qui se promène aussi, qui fait le même trajet que le fan de Dickens et qui se remémore des événements sanitaires qui se sont produits dans les différents lieux qu'il voit à partir des monuments. Sauf que, que sont les monuments dans cet exemple, à part des traces du passé? Je pose cette question. À la manière des historiens. Des lieux de mémoire, quelque part. Big Ben et la Tour de Londres. Ça, c'était la deuxième façon de définir la mémoire collective. Je vais maintenant passer à la dernière façon que je vais vous présenter, à savoir l'approche en sciences politiques. Et cette approche, elle provient de Paul Ricoeur dans La mémoire, l'histoire et l'oubli. Dans cet ouvrage, Ricoeur s'inspire à la fois de la définition historique de la mémoire collective. Il considère en effet que le passé laisse des traces dans nos sociétés présentes, des traces communes et collectives. Et il s'inspire également dans le même temps de la définition sociologique de la mémoire collective. Ricoeur affirme que le passé est un choix qui dépend du présent. Donc l'objectif de Paul Ricoeur est le suivant. Son but, c'est de répondre à la question suivante. Comment ces traces du passé se sont reconstruites pour répondre à des enjeux politiques qui dépendent du présent. Donc, sa perception de la mémoire collective, c'est une construction politique, un instrument politique. On instrumentalise le passé à des fins politiques présentes. On sélectionne des événements du passé, on les reconstruit, on les réinterprète pour répondre à des intérêts politiques qui dépendent du présent. Alors, cette perspective de la mémoire collective comme instrument politique, elle a donné naissance à deux types d'études en sciences politiques qui aujourd'hui se confondent les unes aux autres. Il y a les premières études, ce sont celles qui s'intéressent à la construction de lois, de catégories ou de personnalités mythiques par le personnel politique. Je peux vous citer l'exemple de l'étude de Sarah Gainsbourger sur les Justes de France. Alors, c'est une politologue qui revient sur la naissance de la catégorie politique juste parmi les nations. Donc, c'est une catégorie qui a été créée en Israël. Et elle explique comment cette catégorie a progressivement été importée en France sous la forme de Justes de France. Donc, a donné naissance à une nouvelle catégorie strictement française qui est celle de Justes de France. Et dans son étude, elle révèle les intérêts présents pour la France à importer cette catégorie. Parmi ces intérêts, je vous laisse, le livre est très épais, donc j'en cite que quelques-uns. Parmi ces intérêts présents, on retrouve le fait de restaurer son image à l'international, puisque dans les années 90, l'image de la France est entachée par un certain nombre de faits politiques et guerriers, mais aussi améliorer l'autre intérêt, l'un des autres intérêts politiques, c'est d'améliorer les relations diplomatiques entre la France et l'Israël pour sauvegarder c'est un autre débat. pour répondre à des enjeux économiques et géopolitiques. Ça, c'est le premier type d'étude donc qui étudie, qui analyse l'instrumentalisation du passé par des organisations politiques. Il y a d'autres recherches, à côté de celle-ci, qui s'intéressent aux mobilisations, aux reconstructions politiques du passé par des groupes militants, des associations, des partis politiques, des syndicats, des mouvements sociaux, etc. Et ces recherches, elles s'attachent à montrer comment certains groupes sélectionnent parmi les traces du passé des événements ou des figures susceptibles de faire écho à notre présent pour revendiquer des droits, pour légitimer leur combat ou leur présence dans l'arène politique. Et là, il y a plein d'études, dont celle de Marie-Claire Lavabre que je vous citais tout à l'heure, qui montre comment le Parti communiste français a sélectionné certains événements de son passé, les a réinterprétés pour se relégitimer dans la sphère politique après les années 50. Marion Charpenel a fait la même chose pour les mouvements féministes des années 70 et j'ai tenté de le faire également dans ma thèse quand j'ai travaillé sur l'émergence de celles et ceux qu'on appelle les malgré-elles, puisque normalement ce groupe est composé à la fois d'hommes et de femmes, mais ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que les malgré-elles ne sont que des femmes. En fait, là, on répond les malgré-elles en association, se sont présentés, ont utilisé une stratégie militante qui est celle de se présenter comme un groupe de femmes dans un contexte où il y a des mesures politiques prises au niveau national pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, afin de se présenter comme des victimes d'une discrimination sexuée. Elles n'ont pas obtenu l'indemnisation là où les hommes l'auraient obtenu. Et c'est comme ça qu'elles deviennent, alors excusez-moi, je joue un peu la provocation, et c'est comme ça qu'elles deviennent sur la scène publique locale des femmes. Là, elles réinterprètent leur expérience passée, celle de la guerre, en faisant une expérience de femme afin de revendiquer un droit, celui à l'indemnisation, alors qu'elles ne sont pas toutes des femmes. Que la catégorie malgré elle ne recoupe pas uniquement des femmes. Donc, je vais conclure. Pour résumer, on peut dire, de manière tout à fait globale, que la mémoire collective est la présence du passé. Cette présence, on peut l'envisager, en fonction de la discipline dans laquelle on se trouve, comme un poids, comme un choix, ou comme un instrument politique. Aujourd'hui, il me semble, et particulièrement pour l'événement qui nous réunit, à savoir la guerre des paysans, qu'il est important de tenir les trois perspectives ensemble, puisqu'en réalité, à mon sens, elles se complètent. Pourquoi l'événement laisse-t-il une trace dans notre société présente près de 5 siècles après son déroulement? Sans doute, car il correspond à une forme de poids, c'est-à-dire qu'il a laissé des traces dans notre société présente. Deuxièmement, qui sont aujourd'hui socialement les personnes qui se souviennent de la guerre des paysans? Quelles sont, on pourrait s'interroger en sociologue, quelles sont les conditions sociales présentes qui nous permettent, ou qui permettent à certains groupes ou à certains individus, de se souvenir de cette guerre? Troisièmement, on peut aussi se questionner sur les intérêts politiques actuels à se remémorer cet événement. Est-ce que cet événement peut être, ça c'est vous qui y répondez, peut être un instrument utilisé par certains groupes pour revendiquer des droits ou une meilleure position sociale et politique dans la société présente. Je vous remercie.